Ma préférence, Tiffaine Le Men, bonjour. Ma préférence, votre magazine culturel d'Occitanie. Bienvenue à tous dans Ma préférence, votre magazine culturel d'esprit Occitanie. Aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu plus particulièrement de cinéma, puisque le 5 janvier sortira Twist à Barmaco de Robert Djeguidian. Pour ceux qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire derrière ce film, je vous propose d'écouter l'interview de son réalisateur. Bonne écoute à tous.
Déjà la salle était pleine, ce qui n'est pas faux.
C'est bien.
Oui.
Ouais. Pour ce moment.
Et puis bah, l'accueil était très chaleureux, un peu ça se sent, un peu ça sent des vibrations, mais de sorte, on voyait que c'était pas. Les gens ne se forçaient pas à applaudir ou à participer au débat ou à se marrer même pendant le débat. J'ai fait quelques blagues.
Alors, vous, sur des blagues sérieux.
Non mais sur des sujets sérieux, il faut toujours faire quelques blagues.
Vous avez raison.
Ouais.
C'est surtout alors, très important.
Robert Djeguidian, donc j'ai trouvé votre film Twist à Bamako magnifique. Vous nous racontez le Mali en 1962, quand le pays découvre l'indépendance avec toutes les difficultés qui l'accompagnent, à travers également le sous-statut des femmes, les espoirs déçus. Quel a été le déclic du départ de ce film tourné au Sénégal? À quel moment vous avez eu l'envie de traiter de ce sujet politique et humaniste?
En fait, le déclic en fait, pour partir sur ce film est photographique. C'est l'exposition de Malick Sidibé, qui était donc photographe de Bamako dans les années 60, qui a fait énormément de photos dans ce qu'on appelait les clubs, c'est-à-dire ces dancing, comment ça, improvisé dans toutes les rues de Bamako. Il y avait 200 clubs de danse, c'est ce qu'on évalue, je veux dire, à ce moment-là. Dans ce moment de l'indépendance, c'est un moment de fête révolutionnaire, on pourrait dire, et émancipatrice. Et effectivement, les photos étaient très très belles. On voyait que des jeunes gens qui dansaient se désarticulant dans tous les sens, sur du twist, donc en se déhanchant avec avec toute la qualité et l'enthousiasme de la jeunesse, et avec aussi des costumes tout à fait extravagants. De toutes les couleurs, en fait, bon, chacun cherchait à s'habiller de la manière la plus originale possible aussi. Et ces photos étaient très belles, donc je me semblais que jeunesse, musique, indépendance, ça faisait déjà des bons éléments, des bonnes idées pour faire un film, puisqu'il y avait donc de l'émotion, des corps, éventuellement, évidemment, tout de suite pensé qu'il fallait faire, et qu'il fallait écrire une histoire d'amour, et que. Il fallait aussi montrer là, ce qui, dans cette révolution, en fait, avait été proposé. Voilà. Et ce qui avait été proposé, ce n'était pas que l'indépendance par rapport à la colonie, ce n'était pas que l'indépendance économique, ce n'était pas que la socialisation, on va dire, des terres et de l'industrie, mais c'était aussi une vraie révolution culturelle, en fait, si on peut dire, hein, une émancipation, donc, des femmes en particulier, la condition féminine, des mœurs, soit des manières de vivre, donc une révolution totale qui a été tentée, expérimentée, et qui a fonctionné pas mal pendant quelques années. C'est surtout ça qu'il faut retenir, la manière dont ça, l'exaltation, donc, quand cela a bien fonctionné. Après, pour beaucoup de raisons, y compris d'ailleurs des pressions de l'ancien colon, c'est-à-dire de la France, et pour des résistances, évidemment, comme toujours, pour de la contre-révolution, pour parler dans des termes qu'on connaît tous, donc la bourgeoisie locale et les féodalités paysannes, en fait, se sont opposées fortement à cette tendance-là. Et ça a tenu, effectivement, ça a tenu 8 ans, en fait, quand même, la révolution de Modibo Keïta. Et on se prend à rêver, donc, le film se prend à rêver ce qui se serait passé si ça avait tenu jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, je ne crois pas qu'on serait dans la situation où on est aujourd'hui le Mali.
Le phénomène déclencheur, ça a été vraiment l'exposition de Malick à la Fondation Cartier ou
à la
vous
Fondation
aviez déjà
Cartier.
En tête une idée?
Non, non, c'était à la Fondation Cartier. Après moi, j'ai toujours fait beaucoup d'histoire et je suis toujours intéressé à ce qui se passe dans le monde en général, mais je ne suis pas un spécialiste des indépendances africaines, par exemple, du tout. Je n'ai jamais travaillé précisément sur ces questions-là. Il y a des bouts d'histoire que je connais mieux que celles-là. Mais les images, vraiment, étaient très, très belles. Et puis, alors, par contre, je peux dire un truc qui n'a pas à voir avec la politique ou avec l'histoire, mais c'est la musique que je préfère, la musique de ces années-là, aussi. Ce qui est une motivation pour faire un film aussi, c'est-à-dire que le twist, le rock, le blues, c'est des musiques que je préfère. Je dis souvent, j'ai jamais eu un véhicule sans avoir Otis Redding avec moi. C'est jamais arrivé.
Assis sur le Doc Dubé.
Oui. Ouais, non, c'est vraiment. Bon, j'ai écouté ça en boucle toute ma vie. Quoi.
Quelle part vous donnez à. Vous filmez à la fois l'intime et l'histoire.
Oui.
Est-ce que vous fixez une règle par rapport à ce que vous allez décrire? Est-ce qu'il doit y avoir un équilibre ou ça dépend de ce que vous ressentez, vous?
Oui, non, il faut trouver l'équilibre, en fait. Donc c'est une recherche, c'est une tension. Il faut absolument trouver le rapport juste entre, justement, le contenu historique, il ne faut pas faire le contresens, il faut quand même être... on a plus, j'allais presque dire, de responsabilité quand on travaille sur une histoire qui a existé, qui a eu lieu, que quand on est dans une fiction pure. Puisque, effectivement, on est quand même tenu par la réalité historique. Donc, on marche sur un fil qu'il faut tenir, comme vous l'avez vu dans ce film, entre une évolution comme ça de ce régime, des discussions, des tensions, des contradictions entre les différentes positions de ce régime-là, des positions plus répressives, des positions qui veulent plus convaincre, comme notre personnage principal, et évidemment l'histoire d'amour qui vertèbre le film quand même, c'est-à-dire qu'il faut tenir les deux bouts en permanence, il ne faut pas... C'est un art, c'est l'art des films historiques. Ça.
Est-ce que le fait que nous, Français, nous étions en Afrique, ça vous a mis sur les épaules une responsabilité supplémentaire dans l'histoire? Parce que nous sommes anciens colons, et entre guillemets, c'est un pays c'est la jeunesse révolutionnaire d'un pays en Afrique. Oui. Est-ce que vous, en tant que sur vos épaules, il y avait cette dimension supplémentaire de responsabilité?
Alors, oui.
Post-colonial.
Oui, je crois, parce que c'est... Mais évidemment, alors c'est toujours... Le « nous » est toujours, effectivement, dans ces cas-là, est toujours... me trouble un peu, quand même. Parce qu'évidemment, moi, j'ai toujours été anticolonialiste, même tout petit, quoi, on va dire. Hein, voilà. Et fondamentalement, quoi, je veux dire, viscéralement, presque, j'allais dire. Donc, mais la France, donc, je suis français, donc je prends une part du « nous », bien sûr... Effectivement, doit absolument analyser les autres pays qui ont des colonies aussi. Mais la France en particulier doit absolument analyser et éclaircir définitivement, d'ailleurs, son rapport aux colonies. Les difficultés qu'on a aujourd'hui et les certains thèmes ridicules qui ne devraient pas être dans la campagne, je veux dire, sont encore dus directement à cet empire colonial qui a duré un siècle et demi, deux siècles, enfin bon. Et dont il faut absolument faire l'histoire, et il faut reconnaître, je supporte mal quand on nous parle de repentance, de je ne sais pas quoi, tout ça je m'en fous. En fait, il faut quand même dire, je ne sais pas, un pays qui n'est pas capable de dire, nous avons commis à ce moment-là un crime contre l'humanité, nous avons découpé des têtes, nous avons brûlé des Algériens en Algérie, je veux dire, Bugeaud, la conquête de l'Algérie, c'est quand même sanglant, quoi, hein, c'est bon, et saignant, quoi, ça tue des gens, ça brûle des récoltes, ça ruine des paysans, bon. Je veux dire, ça, il faut quand même, je vois pas très bien pourquoi on le dirait pas, voilà. Et je crois qu'il faut le dire, parce que, à force de ne pas le dire, on suppose qu'on reste un peu prisonnier de la conception qui présidait quand même au colonialisme. Et la conception qui préside au colonialisme, elle est fondamentalement raciste. C'est-à-dire, elle suppose que les pays dans lesquels nous sommes allés, étaient considérés comme des sous-hommes, en fait. Enfin, c'est la fameuse phrase de Colbert, hein, les Noirs sont des biens meubles. Bon, c'est-à-dire qu'il considérait quand même que les Noirs étaient des bœufs. Il faut quand même, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas ça. C'est pas, je ne vois pas ce que signifient les termes de il ne faut pas se repentir, il ne faut pas ci, il ne faut pas là, je ne sais pas, voilà. Bon. Je crois qu'au contraire, il faut avouer et reconnaître définitivement que. D'ailleurs, bon, Aimé Césaire, déjà en 57, hein, je veux dire, allez, même plus loin que ça, il disait que ce racisme-là, que déjà, que la Shoah était contenue déjà dans ces crimes-là. C'est-à-dire, dans ces crimes contre l'humanité, la seule citation que vous avez vue qui est dans le film, est une citation de Césaire, qui justement dit que le colonialisme est une négation forcenée de l'humanité du colonisé. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on ne considère pas les gens comme des hommes, en fait, comme des hommes à égalité avec nous. Donc, ça, c'est quand même une chose qu'il faut, il faut bien parler aujourd'hui pour que les choses soient claires.
Comment, à quel moment, enfin, plutôt, comment avez-vous décidé de... comment avez-vous choisi, voilà, j'ai bien formulé, comment avez-vous choisi la langue pour tourner ? Le français ou...
Ah non, ça c'était clair que c'était en français dès le début, parce que, de fait, bon, d'abord, effectivement, il y a 60 ans, les Sénégalais ou les Maliens, tout, ils parlaient beaucoup plus français qu'aujourd'hui. Le français s'est perdu, bien entendu, comme toujours, hein, dans tous les cas de décolonisation, en fait. C'est parfois d'ailleurs un peu dommage, peut-être, mais c'est inévitable. Il y a une réaction, une réappropriation de sa langue propre, et un rejet temporaire, parfois, de la langue du pays qui opprimait. Mais à ce moment-là, les gens parlaient français. Ils parlaient français, d'ailleurs, à peu près, j'allais dire, avec toutes les variations qu'on a dans le film. C'est-à-dire, il y en a qui parlaient parfaitement français, bon, qui étaient plutôt des universitaires, des intellectuels, etc. D'autres qui parlaient français avec un accent plus ou moins prononcé. D'autres qui mêlaient de temps en temps un mot de Bambara, qui est la langue prédominante au Mali. Donc on a mélangé tout ça, et c'est plutôt fidèle à ce qui se passait à cette époque-là. Alors ensuite, par contre, dans un second temps, on a, pour que les gens puissent voir le film là-bas aujourd'hui, on a doublé, hein, c'était une opération lourde, on a doublé le film en Bambara et en Wolof. Mmh. Donc nous aurons, elle est en train de se terminer, là d'ailleurs, on a fait une version à Dakar, ça s'est passé à Dakar, avec notre productrice sénégalaise. Et j'ai choisi, c'était étrange d'ailleurs, j'ai choisi des voix, en Bambara et en Wolof, surtout sur les personnages principaux. Oui. Mais j'avais ces 6 propositions, donc j'étais là à écouter toutes ces voix-là, à les choisir. Il y en avait qui étaient plus matures, d'autres plus, etc., plus aigus. En fait, j'avais du mal à juger. Mais en fait, la qualité était plutôt bonne en général. Et bientôt, je pourrais montrer, faire une projection à Montreuil en Bambara.
Génial.
Pas mal.
Aujourd'hui, bien sûr, il est difficile de tourner au Mali, même impossible, c'est pour cela que vous l'avez fait au Sénégal,
oui,
je suppose.
Oui. Oui, oui, mais comme disait mon assistant sénégalais, d'ailleurs, qui est un ami, qui est un type exceptionnel, Demba, il disait, c'est le même peuple, il n'y a aucun souci pour tourner. Bon, tous ces pays-là n'avaient pas les frontières qu'ils ont aujourd'hui. Les frontières sont aussi un héritage, parfois très arbitraire, du découpage que la France a fait. Donc c'est sûr que... le Sénégal, et pour tout ce qui est d'ailleurs établissement public, c'est-à-dire ça c'est l'architecture coloniale française, c'est la même pour les lycées, pour la mairie, pour etc., des choses comme ça, des salles du conseil, tout ça, des lieux un peu officiels dans lesquels on a tourné, c'est exactement la même architecture. Le lycée en particulier, c'est un bijou d'architecture de ces années-là, hein, mmh. le grand lycée là qu'on a. Donc il y a le lycée de Thiès en fait, nous on a rajouté le lycée de Bamako, évidemment. C'était Thiès, juste à côté de Dakar, à côté de l'aéroport. Et on a tourné dans plusieurs endroits. Et juste pour les villages, on est allé quand même très très au nord, même à la frontière mauritanienne, 800 km de Dakar, à Pau d'Or, qui est une très jolie petite ville. Et parce que là, on est plus près en fait, du désert, d'ailleurs. On est plus près de la terre est plus rouge. C'est surtout pour ça. C'est que la qualité de la terre est plus rouge que... Dans le sud du Sénégal, c'est moins proche du Mali, c'est plus jaune, c'est plus sableux. Voilà. Donc on est allé tourner là-bas pour les villages en particulier.
Non, c'était... vous parliez du casting de voix.
Oui.
Mais maintenant, le casting, comment vous avez choisi vos acteurs et vos actrices pour ce rôle ? Parce que, en fait, l'essentiel d'entre eux, les rôles principaux, sont des acteurs qu'on connaît... Ici,
oui, quelques-uns. En fait, il y a...
En particulier, Stéphane
Il y a Stéphane Bach, qui est un jeune acteur qui avait joué d'ailleurs dans Les Héritiers. Il était jeune à ce moment-là, enfin, toujours jeune. Mais
il jouait lycéen,
oui.
Dont le prof était Ariane Ascari.
Voilà, c'est qui m'en avait parlé donc, déjà, donc je le connaissais bien sûr. Et puis, il y a cinq acteurs en fait d'ici. Duke Komar qui a joué souvent des films africains avec Haroun en particulier au Tchad et qui avait joué avec moi déjà dans La Villa, dans Gloria Mundi. Donc évidemment que j'ai tendance à faire en troupe toujours, hein, je veux dire, donc évidemment un film chez lui il m'aurait pas pardonné si je lui avais pas trouvé un personnage. Et sinon, on a fait du casting à Dakar, essentiellement, parce que, bien sûr, pour des raisons de commodité, un tournée au Sénégal, c'était mieux d'avoir des acteurs qui soient du Sénégal, plutôt. Bon. Mais encore que, donc, Isaka, le père, est burkinabé, Isaka Sawadogo, et le chef du village est du Tchad, aussi, et de Djamena, Youssouf, qui avait aussi joué avec moi, ceci dit, à Marseille, il était venu 5-6 semaines au fil d'Ariane, il y a quelques années. Voilà, donc on a fait un casting effectivement qui mélange un peu, puis les origines effectivement des acteurs français d'origine africaine, enfin les origines sont diverses. La jeune fille est capverdienne, d'ailleurs Stéphane est congolais, le petit Badian là il est malien aussi, il y a quand même des maliens, quelques maliens. Et c'est vrai qu'on a fait, on a quand même été justement à cause de cette. Perte un peu de la langue française, sur certains rôles, effectivement, il y a des gens qu'on a pas pu prendre, alors qu'on trouvait que c'était des très bons acteurs, mais avec lesquels il y en avait quand même de la difficulté parfois à comprendre, en fait, ce que je dis, où l'accent était trop fort, voilà. Mm-hmm. C'était une des questions de casting, qui parfois nous a vraiment, il y avait un acteur en particulier que je trouvais vraiment génial, mais son accent était trop fort, alors c'est vrai que s'il fallait lui faire jouer parfois des textes très politiques, très discursifs, il fallait absolument comprendre de manière très très nette ce qui sort à côté, qu'il n'était pas question de sous-titrer, bien entendu. Donc voilà, donc on a fait des choix. C'est pour ça que, évidemment, Stéphane Bach ou Duke, bon, ils sont nés à Paris. Donc c'est vrai que leur diction est parfaite, hein, et c'était nécessaire au film, c'est sûr.
Quand vous partez justement à l'étranger, vous entourez toujours d'une équipe de techniciens de votre famille, ou oui. Vous composez aussi quand il y a des coproductions avec des techniciens locaux?
Ouais. Non, on fait là par exemple, comme le film est une reconstitution, donc il y a énormément de régies, il y avait énormément de régies de voyage, de véhicules d'époque, de je sais pas quoi, la costume, on a fait, je sais pas, je crois qu'il y a 1000 costumes qui ont été fabriqués. Bon, sur un chantier pareil, c'est vrai que l'équipe était à 80% sénégalaise. Mais je pars avec ma garde rapprochée, comme je dis, c'est-à-dire une dizaine de personnes qui restent avec moi quoi qu'il arrive. Voilà. Mais c'est une espèce de certitude. Voilà. Du coup, la direction de production, c'est moi qui produis toujours, mais en fait, mon directeur de production, qui est l'ami d'enfance avec qui je travaille depuis 40 ans, régisseur général, assistant, chef opérateur, ingénieur buisson, donc il y a comme ça une dizaine de personnes. Avec qui je pars, quoi qu'il arrive, quitte à doubler les postes d'ailleurs après. Mais bon, il me faut quand même autour de moi un truc.
De garde rapprochée.
Non, j'écoute. Moi, je connaissais très mal l'histoire de l'indépendance du Mali, donc forcément, j'ai trouvé votre film très intéressant. Il a le mérite même, enfin, en sortant, j'ai été voir sur Google ce que je trouvais sur l'indépendance du Mali, parce qu'on a envie
De savoir plus.
D'en savoir plus. Donc, ça, je trouve que c'est. Le film est très structuré. Je voudrais parler des personnages que j'ai trouvé très beaux, mais vraiment.
Oui.
Chacun, ce sont des lumières, des soleils. C'est un film beau. L'image est belle. Je suis comme vous, j'adore cette musique, donc j'ai pris mon pied parce que la musique, c'était celle que j'aimais. Voilà. J'ai pas plus à dire. J'écoute ce que vous dites, c'est intéressant. Voilà, moi, je voulais vous remercier parce que j'ai eu envie d'en savoir plus. Et ça, je trouve que c'est positif. Le film est très long, il dure 2h15, mais on est étonné en sortant qu'il ait duré 2h15. J'ai un tout petit bémol, mais ça, c'est très personnel. Je trouve que l'histoire d'amour est très, très édulcorée. Voilà. Mais je suppose que chacun voit les histoires d'amour par rapport à...
Moi, je suis très...
Voilà, c'est tout. J'ai trouvé quand même. C'est bien, ils ont tout, ils sont beaux, il n'y a rien à dire. Voilà, un peu. Lui, il n'a aucun défaut, elle non plus.
C'est des héros.
C'est des héros, voilà.
Romanesque.
Fait les défauts de sa jeunesse.
Oui, mais c'est vrai que je voulais me faire deux personnages exemplaires, c'est sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est le point de vue de récit précis de début. Donc d'ailleurs, exemplaire, y compris très beau. C'est-à-dire que ça guidait, ça revient à la question du casting. C'est vrai que sur le casting, on a aussi veillé à... Mais vraiment, C'est toujours un critère. Quand on travaille avec un acteur, il faut qu'il nous plaise. Qu'il nous plaise au sens, à tous les sens du terme. Mais là, on voulait qu'il soit vraiment beau, quoi. Voilà, qu'il y ait quelque chose de peu... Oui, lumineux, grand, mince, qu'il y ait des silhouettes, des élégances, etc., etc. C'est vrai que tous les deux, ça fait quand même... C'est un couple infernal, quoi, je veux dire.
On y tenait
vraiment.
Pardon, ce qui est très réussi, je trouve, c'est la métamorphose que vous opérez chaque fois que, quand on les découvre, lui, en treillis, elle, avec les habits, quand elle est... ses tenues quand elle est au village, et après quand ils vont danser, oui. c'est plus les mêmes. Ouais. Ils sont complètement différents. Elle a une... On part tout comme ça, et puis hop, d'un coup, elle est...
Mais là, on tombe dans la comédie musicale, presque.
Oui, voilà, exactement. Ouais. Il y a cette métamorphose. Que ça, vous auriez pu les faire marcher, habillés en treillis, et hop, se transformer, ça ne nous aurait pas plus choqué que ça.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est Cendrillon, hein, c'est le sens de la fête, et de la... Pour elle, en tout cas, c'est vrai qu'elle est en guenille quand elle travaille ou quand elle est au boulot et tout ça, et puis bon...
Mais enfin, même en guenille, elle reste magnifique.
Ah ben, elle est très belle, oui. Non, mais
sûr. Ah, j'ai un peu une pointe de jalousie, ou quoi?
Ah, pas du tout, oh là là. Elle a l'âge de ma fille.
Je rigole. Mais moi, par contre, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est le potentiel de l'acteur qui, si on le transpose dans plein d'histoires, que ce soit celle de Malcolm X ou de Martin Luther King, il semble avoir ce potentiel de crédibilité. Oui. Il a une puissance incroyable, cet acteur. Moi, j'ai trouvé qu'on pouvait le transposer dans n'importe quelle grande histoire. Et qu'il était crédible.
Ouais, non mais je pense qu'il a. Il, c'est quelqu'un qui travaille énormément, ouais. qui est très intelligent, très obsessionnel, qui pense qu'à ça. Je veux dire, c'est. Mais il a commencé petit, hein, il a commencé à faire du stand-up à, je crois, 13 ans. Ou,
12 ans.
12 ans même, ouais. Et il a commencé à faire ça, donc on trouve des choses qu'il faisait au Jamel Club, etc. Bon. Donc il est vraiment entièrement mobilisé sur la volonté, effectivement, de devenir acteur. Et c'est pas toujours facile c'est en France, parce que souvent, effectivement, on leur propose, soit dans des séries télé, soit dans des films français, souvent, je dirais, quand on est noir, on joue un vendeur de drogue, dans une cité, quoi, voilà. Alors là, il jouait quand même un jeune révolutionnaire, idéaliste, qui vivait là au Mali, et puis bon, il était évidemment absolument ravi de d'avoir une occasion pareille, et il s'est investi énormément, 10 fois plus.
Cette question-là, c'est justement quand, avec votre background, votre 22e film, vous qui avez l'habitude de côtoyer des acteurs, de les voir au début et puis évoluer, vous sentez le potentiel de cet acteur-là? Vous qui avez ce recul, est-ce que vous sentez qu'à travers cet acteur-là, il a le potentiel pour avoir des rôles à venir très étoffés?
Oui, mais si le cinéma, comme je dis, si le cinéma lui permet, si le cinéma français lui permet. Oui, parce que là, je reviens sur cette condition, effectivement, sur la négritude, comme on dit, Césaire ou Senghor. Mais là, c'est vrai que, bon, dans un pays comme le nôtre... Alors, si aux États-Unis, par exemple, il y a, je crois qu'il y a 40 millions de Noirs. Donc ça fait une puissance et un potentiel public, une présence, encore que ça change un peu. C'est vrai qu'en France, on commence de plus en plus à faire jouer. Je me souviens, j'avais vu l'Hamlet de Brooke, où effectivement, c'était un acteur noir exceptionnel, d'ailleurs, qui jouait Hamlet. Bon, donc peut-être qu'un jour, le public arrivera à considérer qu'un prince du Danemark peut être joué par un noir. Voilà. Bon. Mais ce n'est pas tout à fait évident encore aujourd'hui. Il faudra du temps.
Il y a eu une série récemment comme ça.
Où on ne sait plus, ça me fout de savoir si les gens sont noirs ou blancs, ou arabes d'ailleurs, je veux dire, pour parler de la France, il y a une différence. Par exemple, pour les acteurs arabes, c'est devenu beaucoup plus facile en France par rapport à il y a 25 ou 30 ans. On a maintenant des acteurs très 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 connus. Bouadjila, qui est un ami, qui est un mec exceptionnel. Je dirais qu'il joue... Il joue pas des rôles d'arabe, en fait. Voilà, il peut jouer tout. Et on l'embauche pour travailler n'importe quel rôle, indifféremment de ça.
Alors, vous avez fait des avant-premières, notamment chez nos amis de l'ABC. Alors, quelle est la réaction un petit peu du public? Comment vous avez ressenti le retour?
Moi, j'étais... D'abord, je suis toujours... J'ai toujours un peu le trac, quand je fais... C'est pas parce qu'on a fait beaucoup de films, ou au contraire, même peut-être on a plus le trac qu'au début. Au début, c'est un peu inconscient, donc on s'en fout. Enfin, on ne sait pas. Bon. Après, on peut être inquiet. Mais c'était très... Il m'a semblé que que c'était très chaleureux. C'est un peu comme on sent quand même une salle, hein, je veux dire, c'est ce que disaient tous les acteurs, mais quand ils jouent, bah, voilà, c'est pas pareil que jouer, mais on sent quand même que si une salle est plus ou moins réjouie, si les applaudissements, c'est un peu, on dit tirer les applaudissements au théâtre, hein, je veux dire, si on voit que, bon, il y a trois personnes qui font un peu la claque et qui tirent les applaudissements des autres, bon. Là, c'est vrai que c'était plutôt... ça m'a semblé bien, très bien, en soirée.
Alors, vous êtes président de la Cinémathèque de Toulouse et vous allez passer le relais...
C'est mon dernier jour.
Voilà. À Agnès Raoui.
Ouais. C'est mon dernier jour.
Alors, quel est un petit peu votre ressenti?
Un peu de tristesse, bien sûr, forcément. En fait, comme toute époque qu'on quitte. Mais en même temps, je trouve que d'avoir, on y passe depuis un moment, hein, je veux dire, donc la mise en place qu'on a fait pour trouver quelqu'un digne de ce nom est tout à fait, je dirais, qui me remplacera aussi bien, sinon mieux, je veux dire, c'était pas, je suis assez satisfait de ça, donc je pars pas en laissant une terre brûlée, hein, c'est au contraire, je veux dire, le relais se fait cet après-midi à l'Assemblée Générale, et je suis ravi qu'Agnès ait accepté, vraiment, je la connais depuis longtemps, c'est une fille formidable, qui a toutes les qualités, l'éclectisme aussi d'ailleurs, parce que je crois que pour s'occuper du cinémathèque, il ne faut pas aimer tel type de cinéma, il faut aimer le cinéma en général, et puis il faut avoir un peu de, quand même, pour tenir, pour que le financement des cinémathèques se perpétue, pour que bon, les questions budgétaires, financières, un peu se règlent et tout, il faut avoir quand même, il faut que le président ait un peu de notoriété, voilà. Et Agnès en a plus que moi, même, je pense. Donc c'est bien, chercher quelqu'un qui soit quand même connu, voilà. Et puis, mais je dirais peut-être encore cet après-midi, justement. Mais c'est vrai que le fait qu'une actrice aussi s'occupe d'une cinémathèque, parce qu'elle est, bon, elle est aussi réalisatrice, mais elle est aussi actrice. Elle était d'abord actrice, d'ailleurs. Je trouve que c'est important, en fait. Parce que je trouve qu'il y a une espèce de... considérant pas assez les acteurs au cinéma, me semble-t-il. Comme si la parole était toujours du côté de la production, du réalisateur, qui étaient eux les chefs, etc., tout ça. Alors que l'essentiel du cinéma, pour moi, c'est les acteurs.
C'est l'image.
Oui.
Je reviens un peu sur le film, c'est la question que je voulais vous poser à propos de ce que vous disiez du charisme de Stéphane Mack et de ce qu'il peut représenter. Dans sa chambre, il y a beaucoup d'affiches. Oui. Quand son père arrache tout, il n'en reste qu'une, hein, c'est Malcolm X.
Alors c'est pas Malcolm X.
En tout cas, il lui ressemble. À un moment, j'ai cru que c'était lui.
Non, c'est parce que c'est une photo de Lumumba avec des lunettes, avec les mêmes lunettes.
Exactement. Il a les mêmes lunettes que Malcolm X.
C'est ce qu'on appelait, alors selon dans quel cas on est, on appelait ça des lunettes Kennedy, des montures Kennedy ou des montures Malcolm X.
Oui, c'est ça. Donc voilà, je voyais Malcolm X, je n'ai pas vu Lumumba. Mais écoute, vous disiez que pour vous, le moyen d'expression, votre moyen d'expression, c'était le cinéma.
Oui.
Et après, vous dites que finalement, c'est le livre qui est devant le cinéma. Alors,
Non, c'est pas contradictoire. C'est vrai
Non, j'ai pas dit que c'était contradictoire, mais vous avez dit une chose, puis c'est peut-être parce que vous sortez un livre maintenant.
Non, c'est tout simplement. Non, je considère que c'est parce que j'ai eu un rapport historique et biographique au livre qui est très différent du cinéma. Le cinéma a quand même toujours été pour moi plus. Un divertissement dans le cinéma, il faut. Alors que le livre a toujours été pour moi plus scientifique, on va dire. Voilà. Donc le livre est sacré, je crois qu'on y apprend des choses de manière très. Presque définitive, en fait, je sais pas. Alors qu'au cinéma, ça passe par l'émotion, c'est une autre manière de raconter le monde, en fait. Il s'avère que j'ai fait du cinéma, mais c'est vrai que je garderai toujours. Un rapport au livre essentiel, j'entends. Hein. Quand je dis livre, je veux dire le manifeste du Parti communiste de 1848, de Marx et d'Engels, je veux dire l'Évangile de Saint Matthieu, en fait, c'est des livres qui, quand même, comptent beaucoup, hein, je veux dire, je pourrais citer des milliers, mais qui ont une importance tout à fait capitale, et j'ai pas ce rapport-là au cinéma, même si j'en fais.
Il y a un côté plus respectueux ?
Pas respectueux, plus théorique.
Ah voilà, d'accord.
Plus abstrait, plus scientifique.
Mais parce que c'est vous semblez que c'est un moyen plus percutant de faire passer une idée, un message.
Alors je crois que les deux sont nécessaires, mais le cinéma est peut-être plus efficace d'ailleurs.
Le cinéma est peut-être plus populaire.
Plus populaire, c'est sûr. Il travaille en plus sur l'émotion, donc il met en mouvement les gens. En fait, ils voient des films, ça les fait réfléchir. Peut-être alors que des livres sont d'un abord plus compliqué, plus laborieux, c'est plus sérieux, on va dire, et c'est souvent sans émotion. Un livre théorique, il n'y a pas d'émotion. On apprend des choses, on travaille, on compare, on essaie de relier effectivement tous les éléments qui, a priori, dans le réel, sont séparés. Et puis, donc c'est une autre manière, mais donc je veux dire, la science est nécessaire, on pourrait dire, puisque quand je parle de livres, là, je parle quasiment de livres scientifiques, la science est nécessaire, l'émotion est nécessaire. C'est vraiment deux modes, l'art et la science sont deux appropriations du monde très différentes, mais tout aussi importantes.
Mais comment est-ce que c'est plus facile de faire passer une part de soi? Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce que peut-être vous pensez, votre façon de voir, par l'écrit ou par l'image?
Ah non, moi je dis ça, je dis dans le... Moi par l'image, c'est sûr. C'est sûr, parce que quand je dis que j'ai écrit là, ce livre-là, justement, c'est pas une fiction du coup. Donc c'est un livre...
Oui, c'est ce que vous disiez, théorique.
Voilà, théorique un peu... Enfin, théorique, entre guillemets aussi.
Oui, non, mais... C'est pour ça, la théorie, c'est large.
Qui est de ce côté-là, quoi. Donc effectivement, je crois qu'il y a, à part quelques moments dans ce livre qui sont un peu plus, j'allais dire, qui vont chercher du côté de ma biographie, qui peuvent susciter un peu d'émotion. Le reste du temps, c'est un livre de travail, on va dire, quoi, voilà. Alors qu'un film, on y entre comme ça, c'est beaucoup plus de sensibilité dans un film.
À quel moment vous ressentez cette envie, enfin, peut-être que je formule mal ma question, vous ressentez cette envie de parler d'histoire, hein, le Mali, parce qu'après, il y a le promeneur du Champ de Mars, on va dire... c'est le film
L'armée
du crime et une histoire de fou.
Oui.
À un certain moment dans votre filmographie, il y a quelque chose de nécessaire chez vous de parler quelque chose d'un fait historique, ou c'est normal que ça vienne comme ça?
Oui, non, c'est une, effectivement, pour moi c'est nécessaire, c'est des sujets sur lesquels. Enfin, je crois que c'est toujours des manières de parler du présent, quand même, évidemment. Bon, donc c'est vrai que quand je. Là, ce film-là, il est très lié, on en a parlé tout à l'heure, à la manière d'aujourd'hui encore se développent des révisions historiques, des discours détestables sur le colonialisme, sur les bienfaits du colonialisme, il y a encore des gens qui osent parler de ça. Et donc c'est une manière d'intervenir dans le débat et de remettre en lumière les choses, une manière non théorique, donc voilà. Il y a des historiens qui travaillent aussi sur ces questions-là et qui essaient de démonter les thèses, enfin de démonter. C'est très, très facile à démonter, mais puisque c'est faux. Mais les livres sont lus, donc, évidemment, mais peut-être ils ont moins d'impact qu'un film. Enfin, je crois que, du coup, quand je fais ça, je veux dire, quand je m'occupe d'une histoire de fou, c'est pour parler d'ailleurs des questions d'identité, et mettre mon grain de sel. Là, c'est pour parler du colonialisme. Aujourd'hui, donc. L'armée du crime, c'est pareil aussi, c'est pour parler des étrangers dans la résistance française.
Qui se battaient pour la France.
Voilà, qui ont sauvé même la France, qui ont été les premiers même à se battre pour la France, de manière, de la lutte armée. Et même le film sur Mitterrand est un film sur la question du socialisme en Occitan. Donc c'est une manière aussi de parler d'aujourd'hui, toujours. Mais pour moi, l'histoire est une manière de parler d'aujourd'hui, tout le temps.
Vous êtes toujours à côté de vos personnages?
À côté.
C'est-à-dire que quand on les voit, vous y êtes? Une forme d'ombre,
une silhouette. Oui, donc je crois que c'est très, évidemment, de manière inconsciente au début, de plus en plus consciente. Je veux dire, je suis très présent dans les personnages, je les regarde avec le point de vue de l'un des personnages. Bon, là, c'est vrai que pendant ce film-là, j'ai toujours dit à Stéphane, Samba, c'est moi. Enfin, c'est moi quand j'étais adolescent, c'est moi quand j'avais ton âge, moi. J'avais le même idéalisme, la même fougue, le même... Et je dansais le twist mieux que lui.
Et à propos de twist, la musique, c'était difficile d'avoir tous ces titres? Est-ce que ça coûtait cher?
Non, c'est ça, c'est cher. En fait. C'est très facile.
C'est comment?
C'est très facile.
Il faut payer. Oui, c'est ça.
C'est extrêmement cher.
Vous l'avez tourné quand, le film?
On a tourné en 2020, donc, puisqu'on a été interrompu par le Covid. On a commencé à tourner en 3 semaines, jusqu'ils ont mené au 10 mars, je crois que c'était le 10. Et le Sénégal a interdit les manifestations publiques, tous les rassemblements publics, 2 jours avant la France même. Donc ils ont été très... j'allais dire, ils sont habitués aux épidémies. Donc ils ont été très efficaces. Et du coup, on n'a plus pu tourner, parce que toutes les autorisations de tournage étaient retirées, et on est reparti. pour revenir après la saison des pluies, 7 mois plus tard, donc on a entre mars et octobre, on est resté dans le coma à attendre.
C'était difficile ?
Très difficile. Très difficile. Une espèce de chômage technique, un peu, je ne sais pas comment dire ça, une espèce d'obligation, d'empêchement total. C'est sur une. Et puis une œuvre pas finie, quoi. C'est très étrange. En tout cas, je ne sais pas comment réagissent les gens à qui ça arrive. C'est arrivé à plusieurs personnes dans ce moment-là. Moi ça m'a plutôt paralysé, j'ai rien fait d'autre. Quoi. J'attendais vraiment de finir ce film-là avant de commencer autre chose.
C'est vrai que pour le besoin du film, vous avez fait venir votre propre moto sur
oui.
le tournage.
Oui, c'est ma moto. La moto de Samba, c'est le personnage.
La BM.
Ouais,
c'est un casting de luxe, c'est-à-dire que vous l'avez transposé de France.
Ah oui, non, mais ça, on a fait venir pas mal de motos et de voitures. On a fait une moto, en tout cas.
Oui.
Je pense 2 ou 3 Solex qu'on ne trouvait pas là-bas. Et puis, il me semble, une quinzaine de véhicules qui sont
les Baffettes. Les 403.
En fait, on a trouvé là, les autres dans les clubs automobiles là-bas, des collectionneurs à Dakar, bon, qu'on est allé voir, ils avaient pas mal de vieilles voitures, tout ça. Alors maintenant, on manquait un peu de voitures en bon état. Parce qu'ils amènent les voitures d'époque, ce qui est toujours le problème, hein. Les voitures d'époque, ou les costumes d'époque d'ailleurs. Évidemment, à cette époque-là, ils étaient en bon état. Quand on en trouve, ils sont très vieux et très abîmés.
Oui, c'est ça.
À cette époque-là, ils étaient neufs. Donc, oui. Je connais quand même quelques véhicules, j'avais eu le même souci sur l'armée du crime, par exemple. Oui. Et donc c'est les véhicules neufs, on les a fait venir de France, mais bon, ça c'est des camions qui les ont amenés à Anvers, et à Anvers ils ont pris un cargo pour aller jusqu'à Dakar.
Anvers en Belgique.
Ouais.
Oui.
et après à Dakar.
J'avais compris, mais c'était juste la confirmation. Quoi.
Tout ça, c'était quand même tout ça, mais dans des conteneurs, toutes les voitures, la moto, tout ça, c'était calé, évidemment, dans des conteneurs qui sont arrivés à Dakar. Et de Dakar, d'ailleurs, en camion, ils ont fait 800 bornes, puisqu'on a commencé par tourner dans ce village du Nord, à Pau d'Or. Donc il y a des camions et des conteneurs avec des voitures à l'intérieur qui sont arrivés sur la place de Pau d'Or. C'était vraiment une image hollywoodienne.
Incroyable.
Ouais. C'était bien dur, mais je dis toujours.
Vous avez un projet ?
Ben, je vais tourner dans très peu de temps, en fait. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai devancé ma fin de mandat, là. Parce que, normalement, je devais terminer en juin, la Cinémathèque. Les deux, ça aurait fait 2 fois 3 ans, c'est pour 3 ans. Et là, j'ai anticipé un peu, parce que, de toute façon, je m'en vais, à partir de février, je vais préparer mes à Marseille, tu vois. Mais ça veut dire quand même que je ne serai pas là du tout pendant 3 mois. Quoi. Je tourne en avril, mai, à peu près. Quoi. Voilà, je crois au plus tard, je finirai début juin. Mais...
À l'Estac ?
Peut-être un personnage, peut-être je suis encore en repérage, parce que même en français, je fais toujours des repérages quand même. Obligé. Hein, je...
On ne connaît pas tout.
Voilà. Et du coup, il y aura. Oui, il y a un des personnages qui habitera, je pense, à l'Estac. Mais sinon, ça se passe un petit peu partout dans Marseille. En fait.
Alors, le thème sera abordé sans tout dévoiler ?
Non, c'est un film très. Juste de manière très générale, c'est un film qui est un peu le contraire en fait, de Gloria Mundi, on pourrait dire. C'est-à-dire les personnages, les 6-7 personnages du film ont des problématiques qui se résolvent toutes. En fait, voilà. Donc, c'est un film qui s'appelle Et la fête continue. C'est un programme, voilà. C'est un titre programmatique.
Moins dramatique que Gloria Mundi.
Absolument, c'est une comédie, c'est tous les personnages, toutes les problématiques de vie amoureuse, etc., d'engagement, se résolvent. Oui. Mais je crois que parfois il faut faire ça. Parfois il faut s'encourager soi-même, et il faut dire mais non, tout va bien.
Est-ce que vous serez prêt à revenir à Toulouse, même si vous êtes plus président de la Cinémathèque, pour les avant-premières ?
Oui, je pense qu'il n'y a pas un seul film que je ne suis pas venu présenter, même quand je n'étais pas président de la Cinémathèque. C'est vrai que c'est la... en fait, c'est la ville en France où mes films marchent le mieux. Donc je suis obligé de revenir.
C'est parce qu'ils sont bien relayés.
Dans le rapport, probablement. Non, mais c'est vrai que le rapport entre le nombre d'habitants et les entrées, c'est vrai que c'est la ville où mes films marchent le mieux. Mieux qu'à Marseille. Donc.
Une question sur les, parmi les photos, justement, il y avait un guitariste, je n'ai pas su reconnaître si c'était Little Richard ou si c'était Michael Becker.
Non. Le guitariste, c'est...
Little Richard, il était pianiste.
Oui. Et beaucoup, non, c'est non, la photo du guitariste, c'est, en fait, c'est le petit frère qui a fait la photo.
Ah, d'accord.
Qui s'est pris en photo devant une voiture, comme ça, voilà. D'accord. C'est un Badia, oui.
Parce qu'on voyait mon Oui,
il a une petite ressemblance, en tout cas. Il a les cheveux un peu comme ça, là, un peu comme Cliff Richard. Ouais. Un peu redressé.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Mon frère a de Marseille.
Et voilà, j'espère que ce petit moment en compagnie de Robert Guédiguian vous aura donné envie de découvrir son film Twist à Bamako qui sortira le 5 janvier 2022. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt sur Ma Préférence.